Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Fabien Guez.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans le Check-up Santé. Une célèbre actrice avait dit « Plus je vieillis, plus je craque de partout, je suis enfin craquante ». Et oui, nos articulations vieillissent avec nous, parfois plus vite que nous. Et les causes sont diverses et variées, le dos, les doigts, les genoux, le cou, les pieds, tout y passe à des degrés divers. À l'occasion de la Journée mondiale de l'arthrose, j'ai le plaisir d'accueillir trois stars incontournables dans le domaine de la rhumatologie et de l'arthrose. Le professeur Jean Sibignat, chef de service de rhumatologie du CHU de Strasbourg, dont il est le doyen. Le professeur Francis Berenbaum, chef de service de rhumatologie de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Et le professeur François Ranoux de l'hôpital Cochin, rhumatologue et spécialiste de la médecine physique et de réadaptation. Ils vont nous dire si l'on peut encore espérer ralentir cette arthrose, la stopper, voire la guérir. Et sans oublier, bien sûr, les paroles de Rémi Teston, patron de Buzz e-Santé, que nous allons boire pour sa chronique e-Santé. Check-up santé, c'est parti. Jean Sibillat, bonjour.
Bonjour, Fabien.
Francis Berenbaum, bonjour.
Bonjour.
François Ranoux, bonjour.
Bonjour.
Alors, avant de parler de l'arthrose, on va peut-être parler des professionnels de santé, des rhumatologues. Jean, rebonjour. Donc, vous êtes chef de service de rhumatologie au CHU de Strasbourg, doyen de la faculté, ancien président de la conférence des doyens des facultés de médecine. Plus de 500 publications, j'ai lu. Extraordinaire. Je vous ai d'ailleurs invité, d'ailleurs, quelques fois, quand vous étiez président de la conférence des doyens de faculté. Alors, combien de rhumatologues en France ?
À peu près 3000. 3000 rhumatologues répartis à l'hôpital, service public et en ville. Donc population mixte qui permet de prendre en charge les patients.
Souvent de pratiques mixtes, non ?
Souvent de pratiques mixtes, souvent de pratiques mixtes, bien sûr.
Elle aussi confrontée, comme notre spécialité, à une certaine pénurie, non ?
Oui, pénurie non pas de formation, mais offre de soins qui a explosé. Notamment, on en parlera en raison des maladies de l'arthrose et des maladies rhumatologiques.
Donc le vieillissement de la population, c'est ça qui
vieillissement de la population. Et puis surtout, nouvelles connaissances et nouveaux traitements. Il y a une explosion des traitements dans certains domaines de la rhumatologie, donc des besoins de soins très importants.
C'est une spécialité qui plaît aux internes, donc dans le choix de l'internat.
J'espère. On est là pour ça. Donc je pense que c'est une spécialité extrêmement attrayante parce que elle reste très clinique, très proche du malade. C'est une spécialité où on examine le malade, on prend en charge le malade, on a une vision globale du malade. Et je pense que c'est très important. Mais elle a aussi évolué technologiquement. Aujourd'hui, le rhumatologue fait de l'échographie, des gestes, de l'interventionnel, le rhumatologue, et aussi le grand spécialiste des immunothérapies ciblées dans les maladies inflammatoires. On a aujourd'hui 20 ans d'expérience, presque un quart de siècle d'expérience, d'un domaine qui a été vraiment innovant. Donc je crois que c'est un très beau métier, et on incite les jeunes à rejoindre les troupes des rhumatologues.
Et donc cette pathologie de l'arthrose, que vous disiez, donc elle explose avec le vieillissement de la population, elle coûte très cher ?
Ah oui, ça coûte, on peut le dire, une fortune dans les pays occidentaux. D'abord, quelques chiffres clés. Très simple. En France, 10 millions d'arthrosiques douloureux. Donc, d'accord. 10 millions de gens qui souffrent d'arthrose dans notre pays. Entre 5 et 10 millions. Après,
donc, encore plus qui sont amenés à souffrir plus tard.
Et probablement. Deuxième point extrêmement important, l'âge du début de l'arthrose douloureuse est en train de diminuer. On commence à avoir mal autour de 50 ans, les genoux, les hanches, le dos, probablement en raison de modifications, notamment de l'épidémie d'obésité. Et puis, dernier point, ça coûte très cher pour des tas de raisons. Il y a beaucoup d'examens complémentaires, on fait beaucoup d'imagerie. La plupart des IRM qui sont faites pour explorer des douleurs arthrosiques. On ne sait souvent pas. Et le coût de l'arthrose se chiffre en milliards dans notre pays, en milliards dans beaucoup de pays occidentaux. Et un dernier petit chiffre pour bien fixer les choses, l'arthrose est le premier ou le deuxième pourvoyeur d'arrêt de travail en France, avec 10 millions de jours annuels d'arrêt de travail dans notre pays pour cette pathologie-là.
François Ranoux, donc vous êtes, vous, chef de service à l'hôpital Cochin, professeur de médecine physique et réadaptation. Vous avez une définition absolument géniale de l'arthrose, c'est l'Alzheimer de l'articulation. Pourquoi ?
C'est une image un peu cellulaire de la maladie, c'est-à-dire qu'on est dans une ambiance... dans une maladie de la matrice extracellulaire, on a une matrice de mauvaise qualité avec des cellules qui vont essayer de réparer cette matrice, qui ont très peu de pouvoir de prolifération. un petit peu comme dans l'Alzheimer et dans le cerveau.
Oui, une espèce de fin inéluctable.
Exactement, avec un nombre absolu de cellules qu'on a à la naissance, etc., etc. Et avec des espèces de déviances cellulaires qui, en essayant de proliférer, vont faire une matrice de mauvaise qualité. Et donc, ça ressemble un peu... Et d'ailleurs, c'est quasiment dans le même groupe. C'est une maladie micro-inflammatoire, comme la maladie d'Alzheimer. C'est des maladies très proches. Et moi, j'ai eu l'idée parce que quand les COX-2 sélectifs sont sortis, on en parlait beaucoup dans l'arthrose. Et dans l'autre maladie, on en a beaucoup parlé aussi, c'est dans l'Alzheimer. Et en fait, on s'est retrouvé avec les neurologues et on avait les mêmes idées, sauf que la tissu cible n'était pas le même, quoi.
Alors, vous êtes spécialisé traitement non pharmacologique.
Non pharmacologique.
Ça veut dire que vous arrivez après la bataille, quoi.
Oui.
Une fois que l'arthrose est déclarée, voire douloureuse.
Oui, mais comme mes collègues, en fait. Parce que vous êtes cardiologue, vous avez de la chance. C'est-à-dire que si je fais mon AVC à 70 ans, vous savez qu'à 45, si vous me dosez mon cholestérol et vous prenez ma tension artérielle, vous allez pouvoir corriger ces facteurs pour que je ne fasse pas d'AVC à 70 ans. Nous, on n'a pas ça dans l'arthrose.
On va essayer.
Nous, on n'a pas ça dans l'arthrose. Et donc, l'AVC, c'est l'arthrose symptomatique. Vous voyez ?
Et vous dites que ce n'est pas l'arthrose, c'est pas l'apanage de la vieillesse.
Ah non.
Il y a plusieurs types d'arthrose.
Ben, l'arthrose post-traumatique, l'arthrose de l'homme sportif, fit, qui est marathonien, trailman, et qui à 50 ans, 55 ans, a une hanche, notamment une coxarthrose postérieure importante, où on en voit de plus en plus. De plus en plus. Mais il faut être honnête, le corpus principal des patients, c'est quand même plutôt 65 ans, un peu obèse, ouais, plutôt sédentaire, quelques antécédents familiaux.
Mais pas toujours lié quand même au surpoids.
Non.
Pas toujours.
Non.
Francis Berendon, vous êtes chef de service à l'hôpital Saint-Antoine. Vous êtes président d'honneur de la Société française de rhumatologie. Vous êtes un chercheur très impliqué dans la compréhension des mécanismes physiopathologiques aboutissant à l'arthrose. D'ailleurs, vos travaux ont été récompensés à l'international. J'ai titillé un peu François Ranoux sur le fait qu'il arrive après la bataille. Vous, on espère que c'est avant la bataille.
Ah, voilà, en fait, François l'a très bien dit. En fait, nous, ce qu'on aimerait, c'est vraiment trouver des nouvelles cibles thérapeutiques qui permettent de retarder cette maladie. Donc, effectivement, c'est trouver des traitements avant même qu'on voit les anomalies et surtout avant même que les personnes aient des symptômes invalidants.
Donc il y a une grosse partie évidemment prévention, ça évidemment on n'en parle pas.
Absolument.
Et il y a une partie donc détection aussi donc de cette arthrose avant qu'elle ne fasse mal ou pas ?
Alors oui, c'est assez compliqué parce que si on prend, on va prendre 100 personnes qui ont une arthrose sur les radios, ça ne veut pas dire qu'il y en a 100 qui vont avoir des douleurs. Donc c'est ça en fait qui est un petit peu compliqué. Mais globalement, il y a quand même une association. Les personnes qui ont des anomalies sur les radios ont quand même de forts risques d'aller vers des symptômes et des douleurs et du handicap.
Alors justement, expliquez-nous un petit peu cette genèse de l'arthrose. Comment ça se passe, cette dégradation du...
Oui, alors bon, déjà, faut bien imaginer que pendant longtemps, on a cru que l'arthrose était uniquement un problème du cartilage. Quand on pense arthrose, on pense cartilage. Et l'autre mot-clé souvent qu'on dit, c'est de l'usure. En fait, c'est ni une maladie uniquement du cartilage, ni de l'usure, à proprement parler. C'est vraiment une maladie de l'ensemble de l'articulation. Donc, faut imaginer l'articulation. Il y a du cartilage, mais il n'y a pas que ce tissu. Il y a de l'os, et puis il y a une membrane qui entoure nos articulations, chacune de nos articulations qu'on appelle la membrane synoviale. Vous savez, quand on se cogne, il y a le genou qui se met à gonfler, ou la cheville, et puis il va y avoir un épanchement, ce qu'on appelle l'épanchement de synovie. En fait, c'est une membrane qui fabrique ce liquide synovial, et cette membrane-là va aussi intervenir dans la maladie. Et finalement, tous ces tissus-là ne vont pas bien communiquer ensemble, à un moment donné, parce qu'il va y avoir soit un contexte inflammatoire, et donc là ça rejoint un petit peu les maladies inflammatoires chroniques liées à l'âge, et donc il va y avoir une inflammation un peu dans tout l'organisme qui va aboutir à ça, ou alors un traumatisme par exemple, qui peut aussi provoquer au niveau de l'articulation des problèmes de communication entre tous ces tissus, et pour aboutir à la maladie qu'on appelle l'arthrose.
Jean Sibilia, vous êtes un spécialiste en immunologie, inflammation en rhumatologie. Il y a un lien avec l'arthrose ?
Oui, Francis vient d'expliquer, en fait, si on veut vraiment diagnostiquer et prévenir l'arthrose, il faut qu'on arrive à attraper les premiers événements arthrosiques et les événements qui font la différence entre simplement la déformation arthrosique radiographique et puis la douleur. Donc on a, en fait, je crois, deux grands challenges, comme on dit. Premièrement, comprendre les mécanismes initiateurs, ceux qui font l'inflammation dans l'os, dans la synoviale et dans le cartilage, hein, dans ces trois compartiments. Et le deuxième challenge, je pense qu'il est important, comprendre les voies de la douleur. Et je pense qu'il y a une forte intrication entre inflammation et douleur. Il y a des gens qui ne sont pas douloureux. Or, finalement, quand on est arthrosique, on se plaint de quoi ? On se plaint de la douleur. Donc, il y a vraiment des passerelles, et c'est la force des rhumatos, je crois, aujourd'hui. On a une discipline où on crée des ponts. On a créé des ponts entre l'arthrose, l'os, l'inflammation, et on arrive aujourd'hui à trouver des mécanismes précurseurs. Et je pense que c'est vraiment l'avenir de notre discipline et l'avenir du traitement de l'arthrose.
Donc François Renoux, donc avant d'en arriver aux médicaments, hein, au traitement pharmacologique, donc vous prenez ces thérapeutiques non pharmacologiques, quelles sont-elles ?
Alors il y en a une qui écrase tout le reste, c'est de maigrir. Souvent on oublie de dire ça aux patients, hein, c'est la perte de poids. C'est clair, on le sait dans des modèles de patients obèses ou super obèses, on sait que quand on les opère de sleeve ou de, en tout cas des opérations digestives, on a une diminution significative des douleurs, on a une diminution ensuite de la vitesse d'évolution structurale. Donc ça c'est vraiment la première chose, mais ça c'est comme pour le cardiovasculaire, j'ai envie de dire c'est général de toute façon. Et puis on va avoir des traitements non pharmacologiques un peu plus spécifiques de l'appareil locomoteur. C'est d'un côté l'activité physique, qui est une manière un peu snob de dire de faire du sport, en gros. Donc là, c'est tous les sports, comme je dis souvent. Parce que souvent, les patients, ils vous disent « Ah oui, mais vous leur dites, faites de la natation. Ah, je sais pas nager. Du vélo, j'ai pas de vélo. La course, j'ai pas de chaussures. » Donc moi, je leur dis, vous pouvez faire tous les sports, sauf du parachute, du parachutisme. Pour rigoler, pour voilà, et donc ils comprennent qu'ils peuvent tout faire. Et puis après, il y a toute une autre partie qui est une partie analytique, où là, on va faire de la rééducation, c'est de la kinésithérapie, c'est les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, qui vont faire, et qui a comme objectif de renforcer les muscles qui stabilisent l'articulation douloureuse.
Voilà, l'idée c'est de renforcer, c'est ça, donc les muscles
autour de l'articulation
qui est atteinte.
Parce que quand on a une arthrose, en général, on a une articulation qui est instable. Et la deuxième chose, c'est lutter contre l'enraidissement, puisque l'arthrose enraidit un peu. Et pour certaines articulations, on rajoute un peu de travail proprioceptif.
D'accord, mais il y a aussi d'autres éléments extérieurs, par exemple un exosquelette.
Voilà, alors il y a après, donc là, on a parlé vraiment du traitement, on va dire, non pharmaco, via les kinésithérapeutes, les ergos. Et puis une troisième profession dont on parle moins, c'est les enseignants en activité physique adaptée, pour le travail aérobie notamment. Et puis il y a autre chose, après, c'est tout ce qui est, on va appeler ça l'appareillage. Et l'appareillage, il va être pas pour toutes les articulations, c'est quand même essentiellement le pouce et le genou. D'accord, c'est pas la hanche, c'est pas l'épaule, et cet appareillage, il vise à soulager essentiellement la contrainte mécanique sur l'articulation.
Et donc sur la douleur, bien sûr.
Et voilà. Et après les exosquelettes, alors tout ça c'est remboursé par la sécurité sociale, c'est soit acheté directement à la pharmacie, soit du grand appareillage, et à ce moment-là c'est fait sur mesure, et c'est remboursé par la sécurité sociale. Et puis après il y a, vous le disiez, des exosquelettes, où là ça c'est pas du tout remboursé par la sécurité sociale, et c'est pour permettre aux gens qui ont une gonarthrose de refaire du sport.
Notamment, par exemple du ski.
Par exemple du ski, hein, c'est le plus connu, hein, il y a des exosquelettes, puis c'est français, donc
tant mieux.
Parlons-en, qui permettent aux patients qui ont une gonarthrose de reprendre le ski. Moi je l'utilise aussi pour faire reprendre le ski à des gens qui ont une prothèse de genou.
Ah oui,
et parfois pas désagréable pour ces patients.
Francis Berenbaum, donc où on disait l'arthrose est comprise dans un ensemble de facteurs qui agissent, même parfois différentes pathologies. Vous parlez de l'obésité et de l'arthrose des mains. Quel rapport entre l'obésité et l'arthrose des mains ?
Bah oui, ça c'est vraiment étonnant. Ouais. On s'est aperçu que les personnes obèses avaient deux fois plus de risques d'avoir une arthrose des mains. Bon, on marche pas sur les mains. Donc c'est bien qu'il y a d'autres facteurs. Il y a des facteurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'inflammation chronique qui peuvent être provoquées par l'âge et qui peuvent être provoquées également par le tissu gras qui se met à fabriquer des molécules de l'inflammation qui vont circuler et peuvent également atteindre les articulations.
Alors justement, où on en est des nouveaux traitements pharmacologiques, des nouveaux médicaments dans l'arthrose? On a l'impression que ça stagne un peu, non?
Oui, alors c'est vrai que ça peut donner cette impression-là vue de l'extérieur, parce qu'on attend toujours en pharmacie le produit qui pourrait qui pourrait aider au-delà des anti-inflammatoires. Aujourd'hui, il n'y a aucun traitement de fond.
Voire régénérer le cartilage.
Aujourd'hui, il n'y a aucun traitement de fond de l'arthrose, il n'y a que des traitements pour traiter les douleurs.
Et rien en vue pour se régénérer
Si, il y a des médicaments qui cherchent à cibler le cartilage. Le problème, c'est que quand on cible le cartilage, par exemple, Novartis a une molécule qui s'appelle le LNA043 en injection intra-articulaire, et là, il y a une capacité potentielle de régénérer le cartilage, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il y aura une amélioration des symptômes et des douleurs.
Donc, ça ne suffit pas de régénérer le cartilage pour améliorer le...
Oui. Au laboratoire, on a développé on utilise en fait un médicament aujourd'hui utilisé dans le diabète, par exemple, ou l'obésité. Vous savez, les analogues de GLP, on en parle beaucoup. Et en injection intra-articulaire, il y a une capacité à la fois d'agir sur les symptômes, mais également d'agir sur la régénération et sur éviter la dégradation du cartilage. Et c'est comme ça qu'on a créé cette start-up For Moving Biotech pour cet objectif-là.
C'est une famille vraiment de médicaments
À partir du moment où il y a des récepteurs pour ce médicament dans un tissu, il peut y avoir des effets, et en général, c'est des effets bénéfiques. C'est pour ça que tout le monde s'intéresse à cette molécule, indépendamment du diabète, ou même indépendamment de la perte de poids. Mm-hmm. Par exemple, dans la maladie de Parkinson, il y a également des résultats. Donc, je veux dire, à partir du moment où un tissu a des récepteurs pour cette molécule-là, cette hormone, le GLP-1, alors on peut espérer des aspects positifs et peut-être donc pour l'arthrose.
Jean Sibilia, François Renaud disait, c'est une collaboration entre différents... On a parlé des différentes maladies, mais là je parle de la collaboration professionnelle de santé. Il y a les rhumatos, il y a les kinés.
Oui, c'est un exemple de prise en charge globale assez adaptée. Alors c'est vrai, peut-être par défaut, parce que comme on n'a pas de traitement préventif et qu'on peine un peu et qu'on découvre les choses finalement à un stade de la douleur, la collaboration entre les professionnels est fondamentale. Le rhumatologue, n'oublions pas le médecin généraliste qui est quand même le coordinateur, le point clé de coordination de nos patients, mais il gravite autour des professionnels de santé. François, tu les as cités, les ergos, les kinés. On a besoin de tous ces personnels de santé pour prendre en charge les malades, bien sûr. Et le chirurgien, parfois, qui pose quand même la prothèse quand il faut.
Bien sûr. François Arnaud, pour finir, donc il y a des nouvelles technologies, la e-santé, les logiciels, ils permettent d'améliorer les choses, par exemple l'observance.
Oui, alors le gros problème des traitements non pharmacologiques par rapport aux traitements pharmacologiques, vous prenez le comprimé le matin, le soir.
C'est facile.
C'est assez faisable, voire on vous l'injecte, c'est encore mieux. Donc là, pour l'observance, on devient bien meilleur qu'avant. Le problème du traitement non pharmacologique, c'est que la plupart du temps, ça demande un vrai investissement du patient. Il faut qu'il trouve le temps. Quand on lui dit il va falloir faire vos exercices trois fois par semaine pendant 25 minutes ou 30 minutes, il vous dit oui, je vais les faire. Et puis, donc, il faut trouver un moyen d'améliorer la compliance, l'observance à ces exercices. Et donc aujourd'hui, ce qui est très à la mode et on l'utilise de plus en plus, bien évidemment, c'est tout ce qui est e-santé via le smartphone, etc. Avant, il y a encore 10 ans. Il y a 10 ans déjà, on voulait le faire, mais on était gênés parce que on avait une population quand même relativement âgée qui n'avait pas encore l'habitude de ce genre d'apparatus, quoi, notamment le téléphone. Là, maintenant, il n'y a absolument plus aucun problème.
Jean, je vous laisse conclure. Pessimiste, optimiste quant au traitement et de la gestion de la rhumato en 10 secondes.
Toujours optimiste. Optimiste, la rhumatologie est là pour prendre en charge ces malades-là. On a un très grand optimiste. La chance dans notre discipline, c'est qu'on arrive à combiner recherche, formation et soins. Et je pense que c'est l'avenir des disciplines médicales. Et la rhumatologie, je pense, a un bel avenir pour nos patients arthrosiques.
Merci beaucoup Jean Sibilia, merci beaucoup François Ranou, merci beaucoup Francis Oberenbaum. On va terminer l'émission justement avec Rémi Tesson qui va nous parler un petit peu de e-santé dans le domaine de la rhumatologie.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Bonjour Rémi.
Bonjour Fabien.
Alors, comme toutes les spécialités, la rhumatologie est elle aussi impactée par la transformation digitale?
Effectivement, aujourd'hui, le numérique impacte toutes les spécialités médicales, hein, que ce soit dans l'aide au diagnostic, la prise en charge des patients, des outils qui vont les aider au quotidien dans leur pratique. Ouais. Donc, il y a un impact vraiment important en rhumatologie également.
D'accord, donc vous citez évidemment, c'est pas exhaustif, hein, mais vous citez pas mal d'exemples hein, de e-santé, par exemple la start-up Synovial.
Voilà, donc il y a des solutions qui sont là pour accompagner le praticien dans l'aide au diagnostic, pour trouver la bonne stratégie thérapeutique. Donc Synovial, par exemple, propose justement une analyse de tout le dossier médical du patient pour donner des pistes déjà et des pré-diagnostics dans pas mal de pathologies autour des rhumatismes chroniques.
Rheumatools.
Voilà, donc c'est un outil aussi qui est issu notamment du CHU de Bichat et qui est une application mobile qui permet finalement une sorte de couteau suisse pour le rhumatologue où il va retrouver des scores médicaux, des aides au diagnostic, tout ce qui va être aussi les recommandations mises à jour, etc. Ce qui permet du coup en un seul endroit d'avoir tous les outils nécessaires pour la prise en charge du patient.
Alors évidemment, l'intelligence artificielle prend une place évidemment de plus en plus importante.
Exactement. Donc c'est quelque chose qui devient présent dans toutes les spécialités aussi. D'autant plus en rhumatologie, puisqu'on sait que l'intelligence artificielle est très présente dans l'imagerie médicale. Et donc c'est quand même quelque chose de très important dans cette spécialité. Et ça permet du coup d'aider aussi au diagnostic. Et puis dans certains cas aussi, l'intelligence artificielle, avec des modèles plus prédictifs, permet de suivre aussi la progression de la maladie et d'anticiper aussi, notamment dans le suivi du traitement ou l'adaptation du traitement.
Alors, il y a aussi pas mal d'innovations technologiques qui vont prendre en charge de façon non médicamenteuse
les Exactement. patients. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des thérapies digitales. Et il y a notamment un exemple avec Remedy Labs, qui est spécialisé à l'origine dans tout ce qui est gestion des douleurs chroniques. Et qui a mis en place une étude sur des patients atteints d'arthrose et qui a démontré que grâce à sa solution qui est basée sur un bracelet avec des neuromodulations permet du coup d'apaiser le patient mais aussi de faire gagner en qualité de sommeil et même de qualité de vie au quotidien pour les patients atteints.
C'est vrai que quand on écoute nos trois confrères, on est un petit peu pas pessimiste mais presque quand même, hein, la douleur est toujours là quoi. Donc d'où l'intérêt de ces ces applications. Il y a aussi des plateformes, c'est ça, pour les
Exactement. Des applications. Il y a pas mal de plateformes qui existent pour les patients. Alors on va plutôt trouver des plateformes internet plus que des applications mobiles, parce que c'est vrai que les patients arthrosiques sont souvent des personnes plutôt âgées, donc ils sont plus à même d'utiliser un site internet plutôt qu'une application mobile. Mais il y en a certaines qui existent, comme ArthroCoach, qui est fait par l'association de patients AFLAR en partenariat avec les laboratoires Expanscience, ou des programmes aussi de coaching personnalisé qui permettent aussi d'accompagner les patients atteints d'arthrose.
On parle de comme Body Control programme.
Exactement.
Qui est un programme de coaching digital.
Digital. Donc ça veut dire que ça allie à la fois un accompagnement numérique, mais également un accompagnement avec des praticiens. Donc c'est un mix entre les deux.
Merci beaucoup Rémi Tesson.
Merci Fabien.
Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment avec plaisir la semaine prochaine.
BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé.